France Culture.
Salut le Book Club, salut Thierry Bronstein. Alors lorsque j'ai lu le système de la BD, j'étais vraiment très content et j'ai trouvé ça intéressant que de là vos propos de votre nouvelle version du livre, vous parliez de certaines limites qu'il y avait à remettre à jour pour pouvoir continuer à essayer d'accomplir cette ambition de faire une théorie générale englobant toutes les BD.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Donc de la bande dessinée aujourd'hui dans votre book club, mais côté recherche, voilà plus de 45 ans que Thierry Grunstein s'intéresse à la bande dessinée. Il y a consacré sa thèse à la toute fin des années 90 et paraît ces temps-ci aux presses universitaires de France une version augmentée, revisitée, définitive de sa somme système de la bande dessinée. Avec cet ouvrage, il continue d'ajouter aux outils de la critique, des instruments d'analyse, de la BD. Il est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mardi, on retrouve la journaliste Nicole Vulser, elle éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, mois de janvier oblige, elle dresse un bilan de l'année qui est désormais derrière nous. Eh bien, c'est bof bof, bilan mitigé, petite forme pour l'édition française en 2024. Et en fin d'émission, on cherche de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure, dans les bulles, dans les cases et bien au-delà. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Thierry Grunstein.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. Votre livre Système de la bande dessinée est donc publié aux presses universitaires de France. Cette somme va nous occuper pendant la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, elle sera même au cœur de notre conversation. Mais ici, tout commence par des portraits de lectrices, de lecteurs, pour d'abord faire votre connaissance en tant que vous avez rencontré des livres. Est-ce que vous avez grandi dans une maison, dans un appartement, enfin dans un lieu où il y avait des livres autour de vous ?
C'était dans un appartement à Bruxelles. Et il y avait assez peu de livres. Ma mère ne lisait que des magazines féminins. Mon père lisait un petit peu de littérature, mais surtout des romans de gare. Mais en fait, il y avait eu deux périodes dans sa vie. Je sais que quand il était jeune, il avait été un grand lecteur, y compris un lecteur de classiques, et qu'il avait lui-même écrit des poèmes, des pièces de théâtre, qu'il avait tenu un journal. Et tout ça a été brisé par le fait qu'il a passé 7 ans sous les drapeaux, qu'il a servi en Afrique du Nord, il s'est battu en France, il s'est battu en Allemagne, il s'est battu en Indochine. Et ça a cassé sa vie en deux. Et après ça, il avait cessé de lire, il s'est orienté vers de tout autre domaine et loisirs.
Chose qu'il vous a raconté ? C'est lui qui a parlé de cette frontière entre « avant j'étais lecteur, puis il y a eu l'armée, puis je ne fus plus lecteur ».
Non, il ne l'a pas présenté comme ça, mais disons que c'est ce que j'ai fini par comprendre à partir des bribes d'informations dont je disposais. Évidemment, j'aurais adoré lire ses écrits, étant moi-même quelqu'un qui écrit beaucoup. Malheureusement, ma mère avait tout brûlé. Et donc, pour moi, c'était un petit peu comme si mon père était mort une deuxième fois. Ça a été assez difficile à vivre.
Mais que savez-vous de ses lectures dans cette première partie de sa vie ?
Je crois qu'il lisait un peu tous les écrivains qui étaient à la mode dans l'entre-deux-guerres, les écrivains français essentiellement, mais il y avait aussi un peu de littérature américaine, je crois, dans sa bibliothèque. C'était un grand lecteur, sans être un lettré, puisqu'il n'avait pas fait d'études très, très poussées.
En tout cas, une bibliothèque à laquelle vous n'avez pas, vous, accès enfant, Thierry
Grunstein. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui a fait que moi, je suis devenu très tôt un grand lecteur omnivore, lisant des bandes dessinées, mais pas que, lisant toutes sortes de livres, au point que mes parents me reprochaient de m'abîmer les yeux à être tout le temps plongé dans les bouquins. Eh bien, je n'en sais rien. c'est venu comme ça, tout à fait naturellement.
Alors, vous les trouviez où, les livres ?
Eh bien, je m'en faisais offrir. Alors en Belgique, on a beaucoup de chance parce que en décembre, les enfants sont fêtés deux fois. Il y a la Saint-Nicolas le 6 décembre et puis il y a Noël qui arrive très peu de temps après.
Double ration
de bouquins. Moi, j'étais fils unique et deux fois, j'étais couvert de cadeaux. Donc, je demandais beaucoup de livres. Et puis, tout au long de l'année, j'en achetais avec mon argent de poche, m'en faisais offrir d'autres. Enfin, voilà. On ne m'a jamais mégoté sur mes demandes de livres. Et évidemment, j'ai eu très tôt une passion particulière pour les aventures de Tintin. Et je crois que j'ai, pour ainsi dire, appris à lire dans Hergé.
Ça a laissé quoi comme trace en vous ?
Mais ça a laissé des traces durables, puisque en ce moment même, je suis en train d'écrire un nouveau livre sur Hergé. J'en ai déjà publié un, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, puisque je crois qu'on a recensé à peu près 700 ouvrages consacrés à Hergé ou à Tintin, donc c'est tout à fait considérable. Mais on n'en a jamais fini avec cette œuvre quand on est tombé dedans étant petit. C'est quelque chose qui non seulement nous a charmés, divertis, émus, enthousiasmés, mais qui a façonné une certaine vision du monde et un certain rapport aux autres et à la planète, au voyage, à beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui vous marque ensuite, peut-être dans l'adolescence, si on avance un petit peu dans votre vie de lecteur, Thierry Grunstein ?
Oh ben, je lis tout Jules Verne, tout Alexandre Dumas. Oui, je crois que les trois romans qui ont vraiment le plus marqué mes jeunes années, c'est L'île mystérieuse, le Comte de Monte Cristo et Les Misérables. Ce sont les trois livres que j'ai relus le plus grand nombre de fois, certainement.
Parce que vous êtes un grand relecteur. Vous revenez beaucoup sur vos lectures passées.
Je l'étais à l'époque. Alors c'est plus facile de relire une bande dessinée qu'un roman parce que ça prend moins
vite,
de temps.
Ouais.
Malgré ça, je manque de temps pour relire autant que je le voudrais puisque évidemment mon métier me contraint de me tenir au courant des nouvelles parutions et aussi de lire tout ce qui s'écrit en matière de littérature savante sur la bande dessinée. Mmh. Non seulement en français mais en anglais et parfois dans d'autres langues. Donc ça prend déjà énormément de temps. Puis comme je suis non seulement un théoricien de la bande dessinée, mais aussi un historien de la bande dessinée, il m'arrive de me replonger durablement dans des bandes dessinées très anciennes, du 19e siècle ou du début 20e. Et c'est autant de temps pris sur les lectures qui font l'actualité. Donc voilà, ça laisse pas énormément de temps pour relire, mais je m'y efforce quand même de temps en temps.
Alors on va revenir sur cette écriture savante autour de la bande dessinée, mais si on reste du côté de ce portrait de lecteur, est-ce qu'à un moment donné où votre vie de lecteur, de jeune lecteur, de jeune homme, se consacre uniquement à la bande dessinée? Est-ce qu'à un moment donné, vous faites un virage ou vous conservez toujours de la place pour du roman, pour de l'essai ou de la poésie, que sais-je?
J'ai toujours conservé de la place jusqu'à aujourd'hui pour toutes sortes de lectures. Et par contre, ce qui s'est passé à l'adolescence, c'est que la bande dessinée, je ne me suis plus contenté d'en lire, je me suis mis à en faire moi-même. Comme j'aimais écrire et que j'aimais dessiner, inévitablement, je me suis mis à imiter les dessinateurs que j'admirais. Et donc, j'ai dû produire en tout à peu près 80 planches de bande dessinée dans des styles variés.
Vous imitiez qui à l'époque ?
Alors j'ai d'abord imité Franquin, et après je suis passé à un style plus réaliste. Et la dernière histoire que j'avais entamée, je nourrissais de très très grandes ambitions, puisqu'il s'agissait rien moins que d'essayer de, sinon d'adapter, en tout cas de s'inspirer librement du roman de Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir. Alors donc, mon histoire se passait au XVIe siècle, j'avais un personnage de médecin, alchimiste, et j'avais commencé l'histoire à Tournai, qui était la ville où je faisais mes études de journalisme. Et j'avais fait des recherches dans les archives de la ville pour représenter Tournai telle que la ville se présentait à l'époque, avec ses remparts, ses nombreux clochers, etc. Et bon, j'ai dessiné 16 pages, j'ai pas été plus loin, donc
c'est
évidemment, on était loin du compte, et elles sont restées dans mes tiroirs.
Quand vous découvrez la bande dessinée, qu'est-ce qui fait que vous vous y intéressez plus que de raison et qui va faire que plus tard on vous retrouve chercheur et historien de la bande dessinée, Thierry Grunstein ? Qu'est-ce qui vous attrape, vous croyez ?
Je crois que ce qui m'attrape, c'est deux choses. J'ai dit toute l'importance que revêtait pour moi l'œuvre d'Hergé. C'était chez Hergé déjà cet équilibre parfait entre l'aventure, le suspense d'un côté et le comique de l'autre. Je pense que c'est ce qui fait la grandeur d'Hergé, que d'avoir réussi à se tenir sur cette ligne de crête entre deux domaines qui généralement sont séparés. On a de la bande dessinée d'aventure d'un côté, dessinée dans un style réaliste, et de la bande dessinée d'humour, avec un style gros-nez, cartoon, très différent. Et lui réussissait cette synthèse miraculeuse entre les deux, c'est-à-dire qu'on était tenu en haleine par un récit qui était véritablement passionnant, et en même temps, il y avait un humour omniprésent qui, aujourd'hui encore, m'arrache des éclats de rire alors que je connais les albums par cœur. Donc il y avait ça, j'étais très sensible à ça, et puis il y avait le fait que j'ai très tôt ressenti une passion pour le dessin. Non seulement donc je me suis mis à dessiner moi-même, mais ça, tous les enfants dessinent, donc c'est pas très original. mais vraiment, j'aimais scruter les dessins et passer du temps à les regarder, à essayer de comprendre comment ils étaient construits, comment c'était fait, tout ça. C'est sans doute ce qui m'a amené par la suite à disséquer le langage de la bande dessinée. Cette passion du dessin m'a jamais quitté. Elle s'est étendue à d'autres formes d'images par la suite, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ça se traduisait par exemple par le fait que j'essayais d'identifier les dessinateurs, même quand il n'y avait pas de signature. Donc savoir reconnaître le style de l'un par rapport au style de l'autre. Le dessin, c'est un mode d'expression qui est très idiosyncrasique, c'est-à-dire personne ne dessine comme le voisin. Tous les dessinateurs sont différents et tous les dessins sont signés. Et donc apprendre à reconnaître ces signatures, c'était quelque chose qui était important pour moi.
Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez fils unique et que donc vous aviez deux occasions d'être fêté au mois de décembre. Est-ce que la bande dessinée, c'était aussi un objet que vous partagiez, qui faisait communauté entre copains, copines à l'époque, Thierry Grunsen? Ou c'était votre truc à vous?
Non, c'était pas mon truc à moi, parce que comme je vous l'ai dit, je vivais à Bruxelles et en Belgique. À l'époque, la bande dessinée était beaucoup plus répandue dans la vie quotidienne qu'elle ne pouvait l'être en France, et beaucoup plus aussi revendiquée comme une partie importante du génie national. Il y avait ces deux grands hebdomadaires rivaux, Tintin et Spirou, dont la concurrence et l'émulation avaient permis à l'école belge de rayonner non seulement sur le marché francophone, mais véritablement sur toute l'Europe, avec des auteurs qui sont tous devenus des classiques. J'ai cité déjà Franquin, Hergé, mais Jacobs, Peillot, Tillieu et bien d'autres.
Donc vous baignez là-dedans.
Donc je baignais
et
là-dedans.
Et vos camarades aussi.
Et mes camarades, alors surtout à l'adolescence, quand on est passé de... Moi, je suis passé de Tintin et Spirou à Pilote. Donc j'avais à peu près 15 ans quand Pilote, sous la direction avisée de René Goscinny, a connu sa plus grande période, les années 68-72. Ce sont véritablement les années où Pilote est le creuset d'où va sortir toute la nouvelle bande dessinée.
C'est-à-dire, on trouve qui dans Pilote à ce moment-là?
On trouve Blueberry, Valérian, Achille Talon, Lucky Luke, Astérix, mais on trouve aussi Druyère, Heiser, Claire Bretécher, Mandrika et son concombre masqué, et bientôt Tardi, Bilal, donc véritablement...
Toute la scène future de la bande dessinée.
Voilà, exactement. Et là, j'avais autour de moi un certain nombre de copains de lycée qui étaient fans aussi, et tous les mercredis, nous nous jetions ensemble sur Pilote et on n'avait pas assez de toute la semaine pour échanger nos impressions de lecture. Et très vite, je me suis mis à faire un petit journal qui était d'abord le journal du lycée et qui s'est transformé insensiblement, sournoisement, en fanzine de bande dessinée. Mmh. Donc un petit magazine amateur que je finançais avec mon argent de poche, j'allais payer de mes deniers l'imprimeur. Ça s'est arrêté quand j'ai plus d'argent pour continuer. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, non pas me professionnaliser dans ce domaine-là, mais en tout cas à rencontrer des auteurs de bande dessinée, parce que je voulais les interviewer pour ce petit journal. Et donc, j'avais réussi à obtenir l'adresse de l'un ou l'autre qui habitait mon quartier. Il faut dire qu'il y avait une concentration de dessinateurs impressionnante à Bruxelles. Et chacun me donnait l'adresse d'un confrère et comme ça j'ai fini par me créer un réseau dans ce milieu.
Donc il y avait vraiment quelque chose d'emblée de très passionné, Thierry Grunsten, de très aussi à l'écoute d'une scène, d'une naissance d'une scène. Mais d'emblée, vous écrivez sur la bande dessinée, c'est-à-dire que je cherchais à la fois à savoir qui dessinait, être capable de déchiffrer le dessin d'un tel ou d'un tel. En même temps, j'interviewais des autrices et des auteurs de bande dessinée, et en même temps, on échangeait les impressions avec les copains et les copines autour de ce fanzine et autour de Pilote. Donc c'est presque les prémices de tout un travail à la fois critique, d'analyse et de théorie que vous allez réaliser 15 ans après.
Ben oui, j'étais passionné, mais ce n'était pas une passion exclusive. Par exemple, il y avait un autre domaine qui me mobilisait beaucoup, c'était le théâtre. J'allais beaucoup au théâtre et j'ai pris dès l'âge de 15 ans des cours d'art dramatique et j'ai joué pendant très longtemps en amateur. Et j'aurais pu devenir dessinateur comme j'aurais pu devenir comédien. Je n'ai jamais souhaité faire ni l'un ni l'autre parce que j'ai assez rapidement compris que ce qui était le plus important pour moi, c'était l'écriture.
Eh ben, on va en venir à votre livre juste après cette chanson toute nouvelle du tout nouveau disque de Mathieu Bogaerts. Elle s'appelle « Dans une case ». Et il s'agit pour le chanteur d'en sortir par tous les moyens. Et c'est aussi l'occasion de vous glisser qu'on pourra bientôt visiter la bibliothèque de Mathieu Bogaerts dans le Book Club, quasi certaine d'y trouver de la bande dessinée.
Dans une case et tu m'aimes. Dans une case tu m'as mis. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris. Dans une catégorie. Et là, je ne peux plus bouger. Et là, je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé. Dans la case où tu m'as casé. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Je dis c'est une erreur, j'ai rien à faire dans le secteur. Y'a pas la hauteur, y'a pas la longueur, y'a pas la largeur. Fallait pas appuyer Enter. Quelle idée de foutu de moi. C'est trop réduit, c'est trop étroit. Dans ta tête dure, combien je mesure un tout petit poids. Ah ça c'est sûr, c'est pas la joie. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Par où la sortie. Dans une case tu m'as mis. Y aurait-il moyen de bouger un peu. Je ne me sens pas bien dans ce petit creux. Ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête. Dans une case tu m'as mis. Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case.
Dans une case.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Dans une case tu m'as mis.
Quelle est la fonction du cadre? Que dire de l'élasticité du temps dessiné? Quel rôle joue un visage dans la réception du verbe? Analyse d'un moment suspendu, pulsation d'une série de vignettes, lecture sur écran et fantasme d'immersion. Dans quel ordre notre cerveau traite-t-il des infos d'une page dialogue ou image d'abord? Vous l'avez peut-être deviné. On parle de bande dessinée aujourd'hui dans votre book club en la prenant comme objet d'étude. De quoi se compose le langage spécifique de la bande dessinée? Comment évolue ce langage ces dernières années? En repoussant ou en réinventant quelles frontières? On en parle avec vous, Thierry Grunstein. Votre système de la bande dessinée édition définitive vient de paraître aux presses Université de France, universitaires de France. Mais d'abord, écoutons comment on parlait de la bande dessinée en 1968 dans Le Masque et la Plume, célébrissime émission critique de la radio de service public. En 1968 donc.
Bon, alors Jean-Louis Borry. Bon.
J'aime Astérix, c'est peut-être parce que je suis professeur de latin. Ça, c'est un aveu. Je me débarrasse du petit côté déplaisant, c'est-à-dire le petit personnage d'Astérix, qui est une espèce d'invitation à une espèce de poujadisme
exactement,
généralisé.
Exactement, c'est poujadiste.
Ouais. Tu permets? Bon, mais, à partir de ça et ceci écarté, il y a dans Astérix une utilisation des techniques de bande dessinée qui est souvent très astucieuse, même très, très amusant et très réussi. Ce sont des livres amusants où, sur le côté intervention, le côté bulle et invention à l'intérieur des bulles et du langage qui est très drôle, et où le graphisme du Derzo est très amusant. Bon.
Tu vois, Jean-Louis, ce qui m'énerve un peu, c'est cette mode aujourd'hui que les intellectuels font les petits clins d'œil avec la bande dessinée.
Alors j'ai toujours
vu la bande dessinée est en train de tuer toute la littérature.
Plus c'est bête,
toute
plus
la lecture,
c'est bête et plus les intellectuels aiment ça.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Oui. Plus c'est bête et plus on aime ça.
Il ne faut pas être complice de ça.
Il y en a qui sont complètement idiotes, mais il y en a de merveilleuses et de géniales.
Oh, bah oui, mais les gens qui lisent Astérix, ils lisent que ça, tu comprends. Ils lisent Parablès, là, tu sais.
Non, mais Il y a tout de même, et c'est justement que ça me passionne, dans la mesure où, enfin, je suis toujours passionné pour le roman populaire du 19e, et bien évident que tout ça va dans la même ligne. Tu comprends, c'est très important de voir, en effet, les formes d'art, que ce soit la littérature ou le cinéma ou là, le dessin, chercher un contact constant avec l'imagerie populaire. C'est très important et ça me passionne.
1968, Le masque et la plume sur France Inter. Thierry Grosten, ça vous fait lever les sourcils au ciel, mais c'est fait pour ça, cette archive de 1968, peut-être pour d'emblée parler d'une évolution marquante du discours sur la bande dessinée, de la production d'une théorie de la bande dessinée, en fait, au regard de la manière dont elle s'inscrit dans le champ littéraire. C'est finalement pas si ancien que ça. Qu'est-ce que ça raconte, le fait que la bande dessinée devienne un objet d'étude, que vous y consacriez une somme, certes elle n'est pas neuve cette somme, mais elle est revisitée. Ça raconte quoi, Thierry Grosten ?
Ah, effectivement, la bande dessinée a complètement changé de statut. Comme ça fait un demi-siècle que je m'y intéresse et je m'y consacre, j'ai participé et j'ai observé
ce changement de statut,
toute cette évolution. Je me souviens de l'époque où, quand un adulte achetait une bande dessinée, il faisait faire un paquet cadeau hypocritement pour faire croire que c'était pour offrir à un enfant, alors qu'il se la destinait à lui-même. Donc, je suis pas surpris en entendant ces propos. Pendant longtemps, la bande dessinée a souffert d'une totale absence de discours critique. Il y a un certain consensus aujourd'hui pour reconnaître en Rodolphe Töpfer le principal inventeur de la bande dessinée, et on est là dans les années 1830-1840. Il publie dans ces années-là les 7 premiers livres de bande dessinée. Eh bien, il faudra attendre 1955, c'est-à-dire plus d'un siècle plus tard, pour voir paraître le premier ouvrage savant sur la bande dessinée.
Mais il y a de la critique quand même entre-temps ?
Mais non, il n'y a pas de critique. Ce qu'il y a, ce sont des articles signés essentiellement par des éducateurs qui dénoncent inlassablement la nocivité des bandes dessinées.
Voilà, comme on vient de l'entendre là.
Qui pervertissent nos chères têtes blondes. Et donc, il ne faut absolument pas leur mettre ça sous les yeux. Dans le meilleur des cas, on discrimine entre les bandes dessinées passables et celles qui sont épouvantables. Bon. Voilà, en 1955, il y a ce premier livre qui est consacré à la bande dessinée. Et ça s'appelle « Le petit monde de Pif le chien ». L'auteur, qui est un critique de cinéma, Barthélémy Amengual, ne trouve pas d'éditeur en France pour publier ce livre et va le publier à Alger. Donc tout ça dit quand même énormément de choses. Pendant plus d'un siècle, la bande dessinée a vécu complètement sous les radars. Il y a des millions et des millions de pages qui ont été produites et consommées, mais personne n'en parlait. Si vous comparez avec ce qui s'est passé pour le cinéma, par exemple, la critique et même l'histoire du cinéma commencent à s'écrire presque aussitôt qu'il est apparu. On fait d'abord l'histoire des moyens
techniques,
et puis ensuite, très vite, on s'intéresse à l'histoire des formes. Pour la bande dessinée, ça ne s'est jamais produit.
Est-ce qu'on a une explication à ça, Thierry Grosten ? Qu'est-ce qui fait que on fait vivre la bande dessinée, vit, évolue comme art, mais que le discours sur elle tarde à venir, tarde très très franchement à venir ?
D'ailleurs, il y a plusieurs éléments d'explication, mais le principal, c'est sans doute qu'elle était perçue comme une littérature enfantine. Enfantine, sinon infantile intrinsèquement. Donc, elle était discréditée par ce fait même.
Donc, pas légitime à devenir objet d'intérêt pour et la critique et encore moins le discours universitaire.
Par ailleurs, là, vous nous avez fait écouter un extrait de 1968. Mm-hmm. C'est exactement le moment où, à Cerisy, il y a un colloque sur la paralittérature avec des gens éminents comme Francis Lacassin, qui est un des premiers à s'être penché sur la bande dessinée. Mais donc, la bande dessinée est approchée comme une des formes de para, sinon d'infra-littérature, au même titre que le roman policier, le roman d'espionnage, le roman de science-fiction, le roman rose, etc. Et la bande dessinée est considérée comme un genre, ce qui est évidemment une absurdité, puisque dans la bande dessinée, on trouve tous les genres. Elle est un mode d'expression complet, à part entière, à côté de la littérature, mais différent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ma ma thèse et ensuite ce livre, c'est justement parce que j'avais le sentiment qu'on peinait à appréhender la bande dessinée dans sa spécificité.
Oui, vous dites on manque d'outils d'analyse. À la limite, s'il y a petit à petit la naissance d'un discours critique au sens de la presse critique de la bande dessinée, par contre, le discours qui proposerait des outils d'analyse comme on peut le faire avec d'autres arts nous manque cruellement. Oui. Donc, vous les créez, vous nous proposez des catégories que vous rendez élastiques pour qu'elles ne soient pas trop figées, trop enfermantes. Thierry Gonsen, vous proposez d'emblée l'idée d'un système. Dès le titre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce mot système de la bande dessinée, Thierry Gonsen?
L'idée de système, pour moi, évoque le fait que dans tout ça, il y a du jeu. La bande dessinée repose sur un ensemble de procédés, de codes que je décris minutieusement, mais que l'on peut combiner de différentes manières, qui ne sont pas toujours tous mobilisés en même temps et qui peuvent être mobilisés différemment et en proportion variable.
C'est-à-dire, par exemple.
Prenons la définition canonique de la bande dessinée comme étant le lieu de rencontre du texte et de l'image.
Bon, c'est une définition qui explose quasiment dans les premières pages de votre livre là, puisque vous dites parfois.
Je la dynamite.
Ouais, parfois il y a de la BD, il n'y a pas d'image, ou à peine, et parfois il y a de la BD où il n'y a pas de texte.
Alors, il y a surtout, dans la bande dessinée où il n'y a pas d'image, il y en a peu d'exemples. J'en produis un pour montrer que ça peut exister, en effet.
C'est celle avec les bulles sur la Trinité?
Non, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Il y a une planche de François Hérol qui est membre de l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, et qui donc se plaît à jouer avec tous ces codes. Mais il n'est pas le seul à avoir fait ça, mais ça reste évidemment tout à fait marginal. Par contre, il y a une très riche tradition de bande dessinée sans texte, de bande dessinée qu'on appelle muette. Aux États-Unis, on parle parfois de pantomime strip, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, tout le récit est véhiculé par l'enchaînement des images. On peut penser aussi au roman en gravure de Franz Masrael, Lindward, Otto Nuckel et tous ces artistes qui, dans les années 1920 et 1950, ont produit des choses dans ce genre-là. Ils n'avaient pas du tout conscience de faire de la bande dessinée, mais c'est une des formes de la bande dessinée que l'on peut reconnaître a posteriori. En tout cas, il n'y avait pas de texte dans ces livres-là et pourtant, ils racontaient une histoire. Le premier à avoir fait ça, c'est Wilhelm Busch, le créateur de Max et Moritz, qui est resté le classique de la littérature enfantine dans le monde germanique. Et c'est au milieu des années 1860. Carandache va introduire cette formule de la bande dessinée muette en France avec un succès considérable. Il y a même un journal satirique à la Belle Époque qui va s'en faire une spécialité, c'est Le Chat Noir, qui est l'organe du cabaret du même nom à Montmartre, puisque dans chaque numéro, chaque semaine, en page 3, on a une page de bande dessinée muette, toujours muette.
Et alors, qu'est-ce qui différencie ce qu'on appelle un livre d'images, Thierry Gronstein, et une bande dessinée muette? Ça va être le séquençage, c'est tout ce que vous racontez de la rythmique, d'une certaine manière, de l'image et de la succession des vignettes ou des scènes. C'est ça qui va faire bande dessinée?
Oui, alors, moi, j'essaye de ne pas enfermer la bande dessinée dans une définition trop étroite, mais il est certain que une de ses propriétés les plus visibles, c'est de proposer au regard du lecteur un espace compartimenté. L'espace de la page et même de la double page, parce que quand on ouvre une bande dessinée, ce qu'on a sous les yeux en général, c'est une double page. Bon, et il est divisé en fragments encadrés qui sont des cases ou des vignettes. Et donc, d'emblée, on peut hésiter entre deux modes d'appréhension. Il y a une sorte de saisie globale instantanée, c'est une vision panoptique de tout ce qui nous est proposé en même temps à regarder. Et puis, on attaque la lecture proprement dite, et là, on commence en haut à gauche, et on est dans un ordre vectorisé, où on va déchiffrer les images les unes après les autres, et on rentre dans le récit. Mais en fait, je crois que notre appréhension, elle balance en permanence entre ces deux modes-là. C'est-à-dire, on peut passer instantanément de l'un à l'autre. On peut aussi revenir en arrière.
Oui, d'ailleurs, vous faites parfois appel aux neurosciences pour se demander comment on fait le tri, qui fait le tri, qu'est-ce qu'on attrape en premier. Est-ce que notre œil va chercher d'abord le dialogue dans une bulle, s'il y a une bulle, ou le texte narratif, ou l'image, ou cette grande vision, comme vous dites, panoptique de la double page. Parce que c'est vrai que c'est un régime de lecture tout particulier à la bande dessinée.
Alors, quand il s'agit d'une bande dessinée à texte, donc, et qu'il y a du dialogue, en fait, c'est la perception de l'image qui est première. Puisque le texte, la lecture du texte est déchiffrement, la lecture de l'image est reconnaissance. La reconnaissance, elle se fait immédiatement. Ou alors c'est que l'image est confuse et ratée. Alors que la lecture
ou
du
confuse,
texte
parce
prend
qu'elle
un certain temps.
Peut être confuse et pas ratée.
Oui. Elle peut être très complexe, très,
très
riche,
complexe,
il peut
voilà,
y avoir beaucoup de choses à voir.
Plein de choses à voir
mais en règle générale, les images de bande dessinée sont assez simples. Elles se concentrent sur le personnage focal qui fait ceci ou qui est pris dans telle ou telle situation. Bon, et donc, une fraction de seconde suffit pour comprendre ce qui se passe dans la case. Alors que le texte, surtout s'il est un petit peu copieux, eh bien, suppose donc le temps nécessaire à lire les mots et les phrases les uns après les autres. Bon. Donc, on a du déchiffrement d'un côté, on a de la reconnaissance immédiate de l'autre. Ce sont deux temporalités qui sont désaccordées, mais qui ne posent pas problème au lecteur de bande dessinée. Je pense que la perception de l'image, elle se fait de façon non seulement immédiate, mais quasi inconsciente, parce que les lecteurs, ils ont tendance à sauter d'une bulle à l'autre. Et ils perçoivent confusément les informations qui doivent être prises dans l'image. Sauf s'ils décident d'y consacrer un peu plus d'attention, mais c'est pas toujours le cas. Simplement, la lecture du texte, elle est quand même informée par ce que l'on a perçu de l'image. Donc la synthèse se fait tout naturellement.
La manière dont justement notre esprit synthétise cela dépasse l'addition du texte et de l'image. C'est le point de vue de Marius qui dit qu'une bande dessinée, c'est au-delà de ça encore, ça dépasse l'addition de cela. Marius, c'est notre auditeur du Book Club et il vous adresse une question.
Salut le Book Club, salut Thierry Grondstein. Je trouve que les analyses de planches, et notamment les vôtres, tendent à montrer que même les BD conventionnelles sortent au moins en partie de tout cadre théorique et de toute grille d'analyse rationnelle, parce que une BD est plus que la somme de ses parties, et que de sa complexité émerge aussi quelque chose qui peut être plus dur à cerner, et du coup il faudrait peut-être davantage employer de la poésie, assumer sa subjectivité, etc., pour tenter de capter ce qui se passe dans toute cette alchimie. Et du coup, même si je suis vraiment en désaccord sur le fond de l'art invisible, dans sa forme, il y a en partie une démarche de faire de l'art pour parler d'art, et qui, je trouve, amène le théoricien à devoir assumer son affect. Et voilà tout cet enjeu entre subjectivité, objectivité, qui est donc aussi lié, je pense, à la manière et donc la forme par laquelle on passe pour construire sa théorie, m'a fait me demander quelles sont vos raisons qui font que vous avez opté pour la forme presque exclusive du texte dans la mise en place de votre théorie pour la bande dessinée. Voilà, un grand merci pour votre travail.
Merci à vous, Marius, pour cette lecture riche. Peut-être on va décomposer la riche question de Marius en plusieurs temps.
Oui, il cite un livre qui n'est pas le mien. Il cite L'art invisible, qui est un essai sur la bande dessinée de l'auteur américain Scott McCloud.
Voilà, pour dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec cela, mais par ailleurs, il vous a lu et il vous remercie, je crois, pour la somme du travail que vous avez effectué. Dans un premier temps, revenons sur ce qu'il dit d'une grille d'analyse rationnelle que dépasse nécessairement une planche de bande dessinée, qui doit faire appel même aux théoriciens, à quelque chose qui excède la théorie, qui excède la rationalité. Comment on fait avec ça en tant que chercheur, Thierry Grondstein ?
Mais je lui répondrai tout d'abord qu'il s'agit ici d'un livre de sémiotique. D'ailleurs, la première édition, en 1999, est parue dans une collection qui s'appelait « Formes sémiotiques ». Désormais, le livre est hors collection. Mais la sémiotique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des mécanismes qui produisent du sens. Ce n'est pas à confondre avec la sémiologie, même si les deux termes sont proches, puisque moi, je récuse l'idée qu'il y a des signes dans l'image, que l'image peut être décomposée en signes sur le modèle de la langue. Je ne suis pas le premier à récuser ça, puisque Umberto Eco et bien d'autres auteurs l'ont fait avant moi. Mais donc, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de comprendre comment la bande dessinée produit du sens, et ça veut dire que j'isole une certaine couche dans la multiplicité des aspects que comporte une bande dessinée. J'appréhende la bande dessinée en tant que langage. Voilà. En tant qu'elle produit du discours. Mais ce n'est évidemment pas le tout de ce que l'on peut dire sur la bande dessinée. Et j'aurais pu produire un livre d'esthétique au lieu d'un livre de sémiologie. Et à ce moment-là, j'aurais tenu un discours différent et je me serais attaché davantage à parler des qualités sensibles de l'image, du dessin, etc. Toutes choses qui m'intéressent par ailleurs. Mais des livres sur la bande dessinée, j'en ai écrit 30 à ce jour. Donc celui-ci est le plus théorique et il relève d'une discipline à laquelle on peut ne pas adhérer. Ça ne dit pas le tout de ce que je pense de la bande dessinée.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les catégories que vous utilisez pour analyser le sens produit par la bande dessinée, Thierry Grunsen, il y a des catégories qui, à moi, me sont apparues sensibles pour aller dans le sens de Marius. Par exemple, tout ce que vous racontez, presque de la musicalité, de la rythmique, de l'analyse de la fabrication de temps suspendu. Il y a vraiment quelque chose de la sensation, des vitesses, des ralentissements produits par la bande dessinée. Tout un développement que vous consacrez au temps, qui fait aussi partie de l'actualisation de cette nouvelle édition. Est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage? Comment est-ce que vous travaillez l'élasticité du temps dans la bande dessinée?
Eh bien, en fait, quand on regarde de près comment ça fonctionne, on s'aperçoit que la bande dessinée n'est jamais indexable sur une durée précise et que l'on pourrait chronométrer. Déjà parce que la durée de lecture ne nous est pas imposée, contrairement à ce qui se passe quand on regarde un film, où on ne peut pas, sauf si on appuie sur les touches, le rythme du film nous est imposé. Là, chaque lecteur est libre de lire à son rythme, de revenir en arrière s'il le souhaite, de marquer une pause, de passer plus ou moins de temps sur une image. Nous sommes maîtres de notre temps de lecture. Et ensuite, on s'aperçoit que la plupart des images condensent ne sont pas des instantanées, mais condensent déjà une certaine durée interne. Alors, c'est très facile à comprendre quand on a dans une même image deux personnages qui parlent et qui se répondent, puisque le premier va être dessiné au moment où il pose sa question et le second va être dessiné au moment où il lui répond.
Et donc,
ce sont donc deux temporalités différentes. Hein. On peut lire sur les expressions physionomiques des deux personnages que ça correspond bien à ces deux temps-là, celui de l'émission de la question et celui de l'émission de la réponse. Et pourtant, ils sont réunis dans une seule et même image.
Donc, la compression du temps.
Mais quelquefois, on a... la bande dessinée est un langage discontinu qui joue de l'ellipse. Et donc, cette ellipse entre deux images, ce blanc, cette gouttière, cet espace intericonique, ce hiatus, on lui a donné toutes sortes de noms, lui-même est élastique. Quelquefois, c'est un fragment de seconde, ou bien même, on peut avoir deux images qui se passent au même instant. Il se passe ceci ici et là. En même temps, il se passe autre chose. Et parfois, il peut s'écouler une année ou davantage. Donc, on a des images avec une durée élastique qui sont séparées les unes des autres par des intervalles qui ont eux-mêmes une durée élastique et non chiffrable et mesurable.
Donc, c'est une expérience très riche de la temporalité du temps en tant que lectrice ou lecteur de bande dessinée. Vous racontez aussi Thierry Grunsen, vous analysez à force de choses très précises et théoriques la manière dont un dessin, notamment par exemple des gros plans, peuvent, à contrario, non pas compresser le temps, mais le distendre à l'infini. Un geste, une main sur une poignée de porte, va comme suspendre presque à l'équivalent d'un ralenti au cinéma ou de l'usage d'un gros plan au cinéma, à l'inverse sur l'échelle du temps.
Oui. Et là, je donne des exemples de dessinateurs qui jouent de l'accélération et du ralentissement, justement, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le rythme de base du récit, sa cadence. On a des séquences remarquables où tout à coup, on voit que le temps se dilate, s'immobilise, ou au contraire s'accélère. Mais tous les dessinateurs ont leur propre procédé, mettent au point leur propre rhétorique.
Vous êtes aussi historien de la bande dessinée. Est-ce que ça, c'est une nouveauté? Est-ce que les choses évoluent dans l'usage que l'on fait de l'élasticité du temps? C'est pas facile à dire. Ou de tout temps, la bande dessinée a fourni cet outil-là, ce terrain d'expérimentation?
Elle en a toujours joué. Ce qui change dans la période récente, c'est le fait que l'on est passé d'un format d'album très contraint, puisque habituellement les albums de bande dessinée faisaient 48 pages en France. Pourquoi 48 pages? Parce que ça correspondait à trois cahiers de 16 pages pliés et réunis sous une couverture. Et les éditeurs pensaient que on pouvait pas mettre davantage de pages parce que ça aurait conduit à vendre les albums trop chers. Et le public n'aurait pas suivi. On est passé de 48 pages à des romans graphiques qui font fréquemment 200, 300, jusqu'à 400 pages et même davantage.
Alors, qui évidemment, se sont aussi libérés de la case telle que vous l'avez décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que...
Le cas échéant, oui, pas toujours.
Pas toujours, mais
c'est,
parfois,
c'est une possibilité que certains auteurs explorent. Mais en tout cas, le rythme est forcément complètement différent. Quand, dans un album de 48 pages, vous avez au maximum 200 ou 250 images pour raconter quelque chose. Donc déjà, il est impensable de raconter l'équivalent d'un roman. Vous pouvez raconter l'équivalent d'une nouvelle, tout au plus, avec si peu d'images. Et vous devez tout sacrifier à l'action. Dans un roman graphique, quand vous avez beaucoup plus de place, eh ben déjà vous pouvez chapitrer votre intrigue, vous pouvez vous accorder des pauses contemplatives, des moments de respiration plus poétiques, où on va avoir des échappées, par exemple sur le paysage. Là, je viens de monter une exposition à Chartres sur le paysage dans la bande dessinée, qui est en place actuellement. Et le paysage est un sujet qui est monté dans la bande dessinée ces 20 dernières années. Ça n'existait quasiment pas avant. Il y avait du décor dans l'arrière-plan des cases, loin derrière les personnages, mais le paysage n'était pas un objet en soi. Désormais, on voit que c'est devenu une catégorie importante dans un certain nombre de romans graphiques contemporains.
Une autre chose que vous explorez comme étant une spécificité de ces 20-25 dernières années, c'est l'arrivée de la bande dessinée abstraite. Qu'est-ce que c'est, Thierry Grunsen, que la bande dessinée abstraite, et qu'est-ce que ça crée, et qu'est-ce que ça mobilise comme nouveaux outils d'analyse ?
Alors, la bande dessinée abstraite, c'est quelque chose qui est aussi resté assez marginal et qui est voué, je pense, à le demeurer, mais qui a été en quelque sorte officialisé par la parution en 1999, si je ne me trompe, d'une anthologie aux États-Unis chez Fantagraphics qui s'appelait Abstract Comics et qui réunissait des pages de différents artistes où les images ne sont plus figuratives, mais sont composées simplement de jeux de traits, de formes, de couleurs. Et donc, ce qui est conservé de l'appareil de la bande dessinée, c'est ce qu'on appelle le multicadre, cet espace compartimenté dont je parlais tout à l'heure. Et même si les images ne sont plus figuratives, on voit qu'il y a des effets de rythme, de d'écho, de correspondance entre les images et qu'il se passe quelque chose à la surface de la page. Voilà. Mais ça ne représente plus rien, ça ne raconte plus rien. Donc on est dans une bande dessinée qui est finalement plus proche de la musique.
Ça ne raconte plus rien ?
Non, on ne peut pas dire qu'il y a du récit à proprement parler. Mais il peut y avoir quelque chose de musical dans l'enchaînement des images et bien entendu une dimension plastique, purement plastique. Bon.
Et alors là, justement, puisque vous parlez de la manière dont vous créez aussi des outils d'analyse pour continuer à appréhender la bande dessinée, qu'est-ce qu'on mobilise devant des bandes dessinées de cet ordre-là, Thierry Grunsten ? Comment on les regarde ? Comment on les lit ?
Bien justement, c'est la question que je pose. Comment on les regarde, comment on les lit? Et la première réponse que je donne, c'est tout dépend déjà beaucoup du lieu où on rencontre ce genre d'œuvre. Si vous les rencontrez dans un livre, vous serez tenté d'y voir une forme très expérimentale de bande dessinée. Mais si vous les rencontrez, les mêmes œuvres, les mêmes pages, au cimes d'une galerie, vous y verrez simplement une œuvre d'art abstrait. Mmh. Et vous ne penserez pas forcément à la bande dessinée. Donc le contexte fait beaucoup dans la façon dont on peut appréhender ce genre d'objet très atypique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la bande dessinée s'est tellement diversifiée. Il y a des bandes dessinées sur papier, il y a des bandes dessinées numériques, il y a des bandes dessinées abstraites, il y a des bandes dessinées sans texte, on en a parlé. Il y a des bandes dessinées qui sont conçues pour être exposées et non pas pour être publiées. On les appelle aux États-Unis des gallery comics, ça existe. Donc il y a les webtoons que l'on lit non pas sur l'écran de son ordinateur mais sur l'écran de son téléphone et où les cases doivent défiler, on scrolle hein, pour faire défiler les cases. Donc on n'a plus le compartimentage de l'espace, puisqu'on n'a plus qu'une image à la fois sous les yeux, et on les fait défiler à son rythme. Bon. Donc tout ça, ce sont des formes concurrentes de ce que l'on continue d'appeler, de cette expression indifférenciée, la bande dessinée, et on voit à quel point elle est multiple.
On va écouter de nouveau une archive de Claire Bétréchet. Cette fois-ci, on est en 1996. C'est une archive tirée des entretiens à voix nue qu'elle donnait pour France Culture. Et vraiment, elle doute qu'un jour, il y ait un intérêt à fabriquer de la bande dessinée avec un ordinateur.
Je suis beaucoup intéressée au traitement par ordinateur, évidemment, parce que j'ai des amis qui travaillent à l'ordinateur. Et pourquoi pas ? C'est une bonne formule quand on sait s'en servir, c'est un bon instrument. Mais le problème, d'abord, c'est que c'est pas le même geste du tout. Alors, on a le programme artiste, par exemple, vous savez, qui permet d'utiliser tous les instruments possibles. Vous choisissez votre pointe, l'épaisseur du trait, la variation du trait. Enfin, bon, c'est quand même incroyable, ces programmes. Et puis, vous faites votre dessin sur l'écran, mais en regardant l'écran. Alors, en fait, l'accident, si vous choisissez un instrument qui crée un accident de trait, ça reste quand même un accident programmé, alors que votre trait à vous, l'accident est programmé par vous jusqu'à un certain point, mais il y a toujours un accident supplémentaire qui intervient. Oui. Et s'il n'y a pas ça, l'intérêt de faire un trait devient beaucoup moindre, à mon avis. Alors peut-être c'est parce que je suis trop vieille pour maîtriser ça que je dis ça, mais j'ai des doutes.
Des doutes, c'est Claire Bretécher qui en a dans cet archive de 1996. Vous consacrez tout un chapitre, Thierry Grundsten, dans votre système de la bande dessinée nouvelle édition, à cette nouvelle ère numérique, la BD à l'épreuve du numérique, qui vous fait autant explorer les conditions de création et de production de la bande dessinée que celle de la réception de la bande dessinée, sur laquelle vous avanciez quelques éléments à l'instant. Qu'est-ce que ça bouge fondamentalement? Évidemment, c'est un petit sourire qu'on adresse par-dessus l'archive à Claire Bretécher, parce que ça s'est démocratisé incroyablement la production de la bande dessinée et la manière numérique qu'on a de travailler. Qu'est-ce qui a considérablement bougé et qu'est-ce que ça produit?
Alors, tout dépend des auteurs. Certains sont quand même restés très attachés à la méthode traditionnelle, au papier, à l'encre, au crayon, et continuent à travailler avec ces outils qui étaient ceux qu'on utilisait déjà il y a un siècle. D'autres, effectivement, sont passés à l'ordinateur. Dans un premier temps, ça a été surtout pour la mise en couleur. Faut savoir que souvent, les auteurs de bande dessinée ne mettent pas leurs dessins eux-mêmes en couleur,
voilà,
mais délèguent
temps,
cette tâche à un coloriste spécialisé. Et donc, quand les outils informatiques sont arrivés, on s'est rendu compte que c'était extrêmement pratique de mettre en couleur au moyen de l'ordinateur, parce que ça offrait déjà une infinité de nuances possibles, d'effets, de dégradés, etc. Et puis que l'on pouvait, d'un clic, remplir une surface au lieu de le faire laborieusement avec un pinceau, etc. Bon. Et puis, certains se sont mis à dessiner sur tablette graphique. Et quelquefois, il est très difficile, quand on voit une bande dessinée, de déceler si ça a été dessiné sur papier ou sur ordinateur. Prenez L'Arabe du futur, une bande dessinée que beaucoup ont lue. Eh bien, seules les premières pages du tome 1 ont été dessinées sur papier. Et au bout d'un moment, Riyad Sattouf a décidé qu'il allait continuer à l'ordinateur. Mais vous ne voyez aucune différence entre les premières pages et les suivantes. C'est-à-dire que son trait est resté exactement le même. Il n'y a que l'outil qui a changé. C'est donc pour chaque dessinateur, finalement, de décider comment il se sent le plus à l'aise, quels sont les instruments qu'il va choisir de privilégier. Et on peut tout combiner. On peut faire des petites esquisses sur le papier, puis les scanner, les assembler sur l'ordinateur, les corriger, les colorier, etc. Bon, donc, il y a autant de méthodes différentes qu'il y a, finalement, d'artistes en activité.
Et alors, puisque vous vous intéressez aussi beaucoup à la réception de la bande dessinée, Thierry Grundsten, vous le disiez, on peut lire des bandes dessinées sur son téléphone portable, sur son écran d'ordinateur. Il y a un des titres de chapitre qui parle d'un fantasme d'immersion, parce que l'écran produit autre chose que la planche papier. Ça aussi, c'est une transformation de l'expérience lecture de la bande dessinée. Vers quelle direction, dans quel sens?
Alors moi, j'ai du mal à lire des bandes dessinées sur écran, je le confesse. Je reste très attaché au papier, mais c'est probablement une question de génération. Par contre, ce qui est véritablement nouveau, c'est quand on se sert des ressources du numérique pour faire de la bande dessinée augmentée, avec la possibilité de cliquer sur l'image et de faire apparaître quelque chose, ou on rajoute des petites animations, ou encore du son, ou des images d'archives. On peut montrer, par exemple, la photo dont le dessinateur s'est servi. Voilà. Donc on a pratiquement le matériel génétique qui est publié en même temps que l'œuvre elle-même. Bon, tout ça, ce sont des possibilités qui sont passionnantes. Mais mon expérience de lecteur et d'utilisateur, c'est que quand on nous demande de cliquer et d'interagir, eh bien, d'une certaine manière, ça va à l'encontre de cette immersion dans le récit. Ça nous en fait sortir et on passe dans un autre mode d'appréhension qui est plutôt de l'ordre du jeu.
Oui, ou de l'exploratoire, quoi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et alors, peut-être que dans quelques temps, on nommera cette nouvelle catégorie d'œuvres qui se situe à l'intersection intersection entre le jeu, l'animation et la bande dessinée, pour laquelle on n'a pas encore de nom maintenant et qui en est encore à ses balbutiements.
Il y a un des derniers développements de votre somme, le système de la bande dessinée, qui porte sur les différents narrateurs ou narratrices des bandes dessinées. Là aussi, vous voyez des choses bouger ces dernières années, Thierry Grondsen. Selon quels grands traits on pourrait décrire les évolutions de la place du narrateur, de l'expression des émotions, du récit à la première personne?
Le récit à la première personne s'est beaucoup développé avec l'essor de la bande dessinée confessionnelle, la bande dessinée autobiographique, la bande dessinée intime, qui est quelque chose qui n'existait pas du tout autrefois, qui a commencé à apparaître dans les années 70. Il y a un certain nombre d'œuvres comme le Maus de Spiegelman, par exemple, qui ont été des repères, des marqueurs à cet égard. Et aujourd'hui, il y a énormément de bandes dessinées qui s'inscrivent dans cette veine-là. On a aussi des bandes dessinées de plus en plus de non-fiction, des bandes dessinées documentaires ou de vulgarisation scientifique, où souvent le dessinateur collabore avec un expert du sujet qui est traité, et cet expert s'exprime à la première personne, puisqu'il délivre un discours de savoir,
oui,
sur lequel
le
dessinateur
le
va mettre des images pour les rendre plus accessibles et les vulgariser d'une certaine manière. Donc on a de plus en plus de bandes dessinées qui s'écrivent au jeu, effectivement, ce qui n'existait pas du tout il y a quelques dizaines d'années.
Ça devient une sorte de vraiment véhicule. C'est vrai que vous abordez ces bandes dessinées du savoir. Il y a aussi toutes les bandes dessinées qui se sont emparées récemment de biographies, de personnalités, comme si c'était devenu un outil de démocratisation, de circulation du savoir, de circulation même des données, des BD scientifiques, de prédilection, quoi.
Absolument. Mais en tout cas, je me sens conforté dans ma démarche qui a été dans cet ouvrage « Système de la bande dessinée » d'appréhender la bande dessinée en tant que langage, puisque ce qui nous est démontré à travers toutes ces bandes dessinées dont on vient de parler, c'est qu'elle est effectivement un langage qui est capable de porter n'importe quel type de discours, y compris des discours savants ou scientifiques ou très élaborés sur les sujets les plus variés.
Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
15h50 le mardi, c'est l'heure de vous retrouver, Nicole Vulzer. Bonjour.
Bonjour Marie.
Vous éclairez pour nous des aspects économiques du monde des livres. On est encore en janvier 2025, c'est-à-dire qu'on est pile au moment où on peut regarder aisément dans le rétroviseur 2024. Pour une petite forme, côté édition française, c'est bof bof.
Absolument. Tout n'est pas rose, je suis bien obligée de le constater. Les derniers chiffres 2024 de l'édition semblent bien tristounets. Selon Nielsen IQJFK, qui vient de publier son étude annuelle, le chiffre d'affaires du secteur a baissé d'un point par rapport à 2023 et s'établit à 4,4 milliards d'euros. On est bien loin du pic de 2021 et 2022, année bénie et euphorique pour l'édition, puisque pendant l'épidémie de Covid, seules les librairies avaient pu rester ouvertes et lire était devenu la seule activité culturelle envisageable, puisque les cinémas, les théâtres, les musées et les salles de concert avaient été fermés. Je vais vous donner plein de chiffres aujourd'hui, Marie, accrochez-vous. 356 millions de livres ont été achetés l'an dernier en France, ce qui représente une chute de 3% en volume. Cela revient aussi à dire qu'ils ont été vendus un peu plus cher en 2024 que l'année précédente. Piètre consolation, ce n'est guère mieux chez nos voisins. Les ventes de livres en volume en Italie, en Grande-Bretagne, en Irlande, aux Pays-Bas ou en Suisse se sont toutes dégradées par rapport à 2023. Seul le Portugal et l'Espagne affichent une jolie hausse des ventes, toujours en volume de 6% en 2024. Si on revient en France, on constate ce qui n'est pas réjouissant, une baisse constante mais assez inexorable du nombre d'acheteurs. 23 millions ont acquis au moins un livre neuf en 2024, c'est 10% de moins qu'en 2023. Pour être précise, la fin de l'année a permis de redresser un peu la barre. Sous le sapin, on a trouvé une flopée d'ouvrages emballés et le seul mois de décembre a permis d'écouler 13% de tous les livres vendus dans l'année. Pour éviter de plomber définitivement l'ambiance, l'étude reste tout de même optimiste en regardant les chiffres de l'édition en France au prisme de la décennie. Sur ce temps long, le marché a progressé et entre 2015 et 2024, il est passé de 4,1 à 4,4 milliards d'euros et a donc gagné 300 millions d'euros.
Tout n'est pas perdu. Vous aviez consacré, Nicole, une chronique au marché de l'occasion dans Économie du livre, à réécouter sur franceculture.fr. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là ?
Alors, les éditeurs montent tous au créneau, Marie, en affirmant que les acheteurs de livres se reportent massivement sur les achats d'occasion, qu'il est urgent de les taxer tout à fait cessantes. Eh bien, cette étude a la vertu de calmer les esprits. Elle affirme que les usages ont finalement très peu changé et que l'occasion représente moins d'un livre acheté sur cinq. C'est même un tout petit peu moins qu'en 2023. On apprend des tas de choses dans cette étude. Les amateurs de livres d'occasion ont dépensé en moyenne 39 euros dans l'année, autant qu'en 2023, pour acquérir 9 livres d'occasion. Les acheteurs de livres neufs, soit 78% du panel, ont quant à eux déboursé en moyenne 165 euros sur l'année, un peu plus qu'en 2023, pour s'offrir eux 14 livres. L'autrice de l'étude, Sandrine Vigroux, assure que l'achat d'occasion reste un achat de complément pour ceux qui acquièrent les livres neufs. À ses yeux, très peu de clients ont arrêté définitivement d'acheter du neuf pour se reporter uniquement sur l'occasion. Depuis qu'il faut payer des frais de livraison pour les livres commandés sur Internet, sans surprise, cela freinait ce marché. Et dans cet état des lieux, les livres au format numérique restent anecdotiques avec 4% des ventes.
Et quels sont les secteurs les plus prisés dans cette étude sur l'édition française en 2024 ?
La littérature générale, et donc essentiellement les romans, reste le pilier indiscuté du marché. Les prix littéraires continuent de doper les ventes, et l'an dernier, les succès les plus éclatants sont venus du prix Renaudot, Jacaranda de Gaël Faye, paru aux éditions Grasset, et du Renaudot des lycéens, Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, paru chez Michel Lafon. Par ailleurs, les polars se portent bien et se vendent sans difficulté, mais bizarrement dans cette étude, la littérature générale englobe aussi les livres de romance et de dark romance, des genres destinés aux adolescentes qui connaissent aujourd'hui un succès foudroyant. À titre indicatif, il s'est vendu l'an dernier 7,6 millions d'exemplaires de New Romance, ce qui permet d'enjoliver les chiffres de la littérature générale qui affiche une hausse en trompe-l'œil de plus de 6% de son chiffre d'affaires en 2024. L'autre grande surprise vient du rebond des livres pratiques. Un phénomène qui s'explique par l'engouement récent pour les coloriages pour adultes. Je vous l'avoue, Marie, il fallait vraiment le deviner. Le parascolaire a lui aussi connu une petite embellie l'an dernier, mais tous les autres secteurs ont plus ou moins souffert. Les livres pour la jeunesse, les sciences humaines, les guides de tourisme, les beaux-arts, l'histoire, les manuels scolaires, les dictionnaires ou les cartes et atlas. Tout comme la BD et les mangas, dont les ventes régressent notamment parce qu'elles n'ont pas bénéficié de la sortie d'un nouvel Astérix. Je vous dirai tout la semaine prochaine sur ce secteur à l'occasion de l'ouverture du prochain Festival international de la BD d'Angoulême.
Est-ce que, merci beaucoup Nicole, est-ce que vous savez si les New Romance qu'achètent les adolescentes et adolescents, ça coûte pareil qu'un roman de littérature générale en librairie, ou c'est moins cher quand même ?
C'est souvent plus cher.
Ah, c'est souvent plus cher ?
Oui.
D'accord.
Bon. On reviendra
là-dessus, voilà, j'ai envie de dire, ce sera l'occasion d'une nouvelle chronique économie du livre sur franceculture.fr. Merci Nicole. À cette heure-ci, nous jouons, Thierry Grunstein, dans ce book club. On joue au grand jeu des pages musicales. On s'amuse à aller chercher de la musique dans les livres. Et c'est Cyril qui est allé en chercher chez Fab Caro, mais côté roman et pas côté bande dessinée. Il a pioché dans Broadway, un roman paru chez Gallimard en 2020. Les Inuits possèdent un nombre incroyable de mots pour désigner la neige, dont chacun exprime une nuance bien précise. Ils ont aussi le même mot pour désigner berceau et tombeau, dans le genre ellipse temporelle. Dans notre culture, ce sont les nuances de bleu qui sont incroyablement riches, avec un spectre qui s'étend du bleu juant les pins au bleu colorectal. Je cherche une écharpe dans les tons bleu colorectal, vous auriez ça ? Je regarde cette enveloppe, sans même une trace de baiser rouge à lèvres pour en atténuer la violence, et je me dis que tout courrier administratif devrait avoir la douceur d'une lettre de Sandrine Case. Nous vous invitons à régulariser dans les meilleurs délais votre situation, à défaut, pile là, à la radio, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux, qui nous fait douloureusement penser à vous. Nous poursuivrons la procédure visant à obtenir le paiement, barré d'un baiser rouge à lèvres. Elle est arrivée ce matin, comme elle arrive un matin dans les milliers de foyers, au milieu de factures, de magazines et de promotions de grande surface, parmi d'autres enveloppes, humbles et effacées, une formalité administrative, rien que de bien normal, toute personne ayant 50 ans révolus la reçoit automatiquement, à ceci près que j'ai 46 ans. «
jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes.
À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes.
C'était Noé Chaban au son et à la réalisation, Vivien Demeyer, qui adore Francis Cabrel, que je pourrais chanter comme ça pendant très longtemps. Merci beaucoup Thierry Grunstein d'avoir été avec nous pour Système de la bande dessinée, édition définitive aux presses universitaires de France. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club. Vous pouvez réécouter l'émission et aller voir du côté du compte Instagram du Book Club.